se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Très heureux sur RMC, RMC Story. On est ensemble dans Estelle Midi jusqu'à 15h avec Thibaut Texer, avec Thierry Moreau, avec Emmanuel Dancourt, avec Robert Sebag, avec vous pour réagir à tous nos débats. Et dans un instant, celui sur le député Nupes Aurélien Taché qui a perturbé une représentation théâtrale en état d'ivresse. Les députés se doivent-ils d'être exemplaires dans leur vie de tous les jours? On attend bien sûr vos réactions et vos commentaires. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Paul Lassalle. On va parler du vrac. C'était la grande tendance il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, c'est la dégringolade et on vous expliquera pourquoi le vrac n'a plus la cote. À 14h, inflation, morosité, budget serré. Allez-vous devoir vous serrer la ceinture pour le réveillon? Dites-nous justement si vous avez décidé de vous restreindre au niveau du menu, encore au niveau des cadeaux pour les enfants. Vous nous appelez bien sûr au 3216 ou sur l'application RMC. 14h30, RMC s'engage pour vous et on va tenter d'aider Norman. Il est en litige avec son opérateur téléphonique qui lui a fait payer quand même 6 abonnements au lieu d'un. Et non, c'est embêtant. Et on essaiera bien sûr de l'aider à trouver une solution. Et puis, grand moment peut-être dans l'émission, à la toute fin, ce sera le jeu, le coffre RMC. On verra si on l'ouvrira ou pas.
Et pour jouer, Estelle, il faut envoyer coffre au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous remportez d'ores et déjà un pack Nintendo Switch Mario Kart 8 avec deux volants. Mais vous pouvez remettre ce cadeau en jeu pour tenter de gagner soit une PlayStation 5 plus un chèque pouvant atteindre les 2 500 € ou une PlayStation classique mini. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. 3 SMS pour jouer, 75 centimes par envoi.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC et on va tout de suite s'intéresser à l'exclusion du jour. C'est celle d'Aurélien Taché, député Nupes, qui s'est fait virer d'une représentation théâtrale à Paris car il était manifestement en état d'ivresse et perturbé. Le spectacle, ça fait désordre, Thibaut Texer.
En pleine représentation d'une pièce de théâtre, le député totalement saoul s'est mis à applaudir de manière absurde, parlant fort, invectivant le comédien sur scène jusqu'à ce que ce dernier s'interrompe et lui demande de sortir. C'est ce qu'a expliqué sur Twitter Benjamin Gullard, metteur en scène de Lettres à Anne. Aurélien Taché aurait donc quitté la salle en invectivant le régisseur de représailles. Vous allez entendre parler de moi, je suis un député. J'ai râlé, c'est vrai, répond le député au journal Libération. Il se défend de toute invective, surpris par l'ampleur d'ailleurs de cette affaire. Je sortais simplement d'un dîner, j'ai bu un ou deux verres, dit-il. Il n'y a rien de bien méchant, raconte de son côté le comédien Patrick Mille, qui a demandé au député de quitter la salle. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée Nationale, évoque elle un comportement inacceptable. Elle annonce de possibles sanctions après consultation du règlement intérieur du groupe écologiste. Il sera consulté plus tard. La réputation du député déjà entachée par une bagarre en février dernier, condamné en septembre à 5 000 € d'amende pour avoir insulté et menacé des policiers qui avaient été envoyés sur place.
Alors, un député se doit-il d'être exemplaire dans sa vie de tous les jours? Robert Sebag.
Alors, il y a deux questions. Il y a effectivement ce que vous dites sur les députés en général, et puis il y a l'affaire Aurélien Taché. Alors très vite sur Aurélien Taché, si vous voulez, le fait qu'il ait dit « je suis député », vous en entendez parler, là, il s'est flingué. Deuxièmement, ce monsieur, quelque part, je vais employer un mot peut-être un petit peu difficile, mais vis-à-vis de ses électeurs, en 2017, il a été élu avec La République En Marche. Mmh. Et puis quelques temps après, il a décidé de quitter La République En Marche, alors qu'il avait été élu par les gens. Alors, normalement, s'il veut changer, et il est devenu effectivement écologie, et là, il est affilié à la NUPES. Donc déjà, je trouve que c'est quand même, sans faire appel aux gens qui l'ont voté, il aurait dû, là, il faut dire, je ne suis plus d'accord. C'est pas du tout exemplaire. Bon, apparemment, il a eu déjà des problèmes avec la police. Bon, alors effectivement, si vous voulez, quand vous êtes député, vous représentez quelque chose, et c'est pas acceptable.
Mais est-ce que tu représentes quand t'es dans ta vie privée? Parce que finalement, là, il va au théâtre, c'est sa vie privée. Est-ce qu'il est encore député quand il va au théâtre?
Quand il va, alors, je suis d'accord avec vous, mais
non, c'est
quand,
ma question,
on fait,
hein.
quand on se fait attraper, on ne dit pas je suis député, vous allez entendre parler. C'est là, si vous voulez, où il détruit complètement son argumentation. Bon, après, si vous voulez, quand on boit beaucoup, on va pas au théâtre après. Bah, quoi.
Non, c'est ça.
Soit on dîne après le théâtre.
Il a dû boire tout, parce que dites donc le voilà, théâtre, c'est à 20h.
Il a dû boire, effectivement, beaucoup. Et puis en plus, si vous voulez, c'est une insulte par rapport aux acteurs, par rapport aux metteurs en scène, qui sont là, et par rapport à tout le public. Donc moi, je considère ça, effectivement, très grave. Donc quand on est député, on se calme un petit peu. Vous savez, l'exemplarité, elle est à tous les niveaux. Je vais vous dire quelque chose de personnel, moi. Oui. Mais si vous voulez, si moi, quand je suis dans le métro, et je le fais, bien entendu, je mets un masque, mais si je mets pas de masque, on me dit, mais docteur, vous nous dites sans arrêt que le masque est important. Donc, je veux dire, il y a une exemplarité de la part du médecin.
Tu es médecin aussi dans ta vie de tous les jours.
Et les députés, exactement, et vous l'avez avec vous, c'est pas toujours agréable, faites attention, mais voilà.
Emmanuel Dancourt, est-ce que nos députés sont des hommes comme les autres ?
Mais il faut pas séparer l'homme de l'artiste, hein. Puis alors, pas seulement les députés, les élus en général.
Artistiquement, on peut dire, c'était moyen, quoi.
Ouais. C'est ça. Que quelque élu que ce soit, le président, les ministres, les députés, etc. La question, c'est jusqu'où pousser l'exemplarité de la femme ou de l'homme politique à l'heure où l'hyperconnexion et la surmédiatisation de ces gens-là sont de mise. Et puis comme hein, les frontières entre la vie publique et la vie privée. Et il y a la loi, il y a la morale. Il y a deux manières de répondre à cette question. Soit on pense qu'il a rien fait d'illégal, ça tombe pas sous le coup de la loi. Il faut arrêter de juger la vie privée de nos élus. Il faut pas que la société se transforme dans une tyrannie de la transparence. Il y a tout un tas de gens qui vont passer ça. Et puis il y a ce que je pense moi, c'est-à-dire qu'un élu partout, tout le temps, il doit se montrer à la hauteur de la fonction pour laquelle il a été élu. Il doit garder ses nerfs, notamment, puisque j'ai entendu parler d'une bagarre, oui, et que tout ce qu'il fait doit être à la hauteur du poste qu'il tient, ses actes, ses paroles. Il doit avoir le souci de la chose publique, et il doit être, oui, irréprochable, même dans un cadre privé. Surtout que ces personnes-là, que ce soit lui ou d'autres, ils ont été élus sur une image. Ils se sont servis de cette image, non, que ce soit une étiquette,
enfin,
évidemment.
Tu peux déraper.
Mais même, ouais, mais là, on n'est pas de l'ordre du dérapage. Donc moi je pense que ça fait partie de leur rôle. C'est comme ça aujourd'hui. On ne peut plus cacher sa vie privée. On ne peut plus avoir de double vie, comme on a pu voir un président qui a une double vie.
On peut pardonner.
Pour moi, on est dans
aussi,
la transparence. On peut quoi ?
On peut pardonner.
Mais ça n'a rien à voir, ça.
La rédemption.
On doit
être
dans la transparence.
Ouais, mais là c'est beaucoup total.
Le problème, c'est que l'irréprochabilité, ça dépend où on met le curseur. Oui. Pour répondre très précisément à la question que vous avez posée à Robert, je pense que quand il est au théâtre, il est en public. Donc, il est en représentation.
D'accord.
Pour moi.
Ok, non, je comprends.
En revanche, ce qu'il fait chez lui, une fois que la porte est fermée, s'il a, je sais pas moi, s'il aime se mettre des cotillons dans les fesses, j'en sais rien. C'est son problème. La vie privée, c'est
non,
la vie privée.
C'est pas son problème. Quand je veux dire, quelqu'un qui viole, quelqu'un qui harcèle,
bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le cadre privé où on peut faire ce qu'on veut dans le respect de la loi, bien évidemment. Mais quand on est au théâtre, pour moi, on est en représentation.
Ouais. D'accord. Quand t'es en public, t'es député, quoi.
Ah, pour moi, quand t'es en public, t'es député. Mais je voudrais revenir quand même sur la phrase que Robert a mis en exergue. Vous allez entendre parler de moi, je suis député. Il y a eu un autre fait divers le 20 novembre dernier où rue de Varennes, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rue, il y a l'hôtel de Matignon où le Premier ministre a son bureau.
C'est plutôt
il y avait une fête dans un hôtel particulier. La police est intervenue et il y a un jeune homme de 25 ans qui a dit « Je suis chef de cabinet du ministère d'Éducation. » Il a sorti une carte barrée de tricolore. Il a quand même pris l'amende parce que les policiers ne se sont pas laissés impressionner. Encore, ça, c'est inacceptable. Parce que je pense que ce type de comportement, comme celui d'Aurélien Tachira, celui de ce chef politique, décrédibilise l'homme politique. Donc, on ne pourra jamais avoir des saints et des modèles de vertu absolus. Faut juste quand même faire attention quand on est en public, on est en représentation et ça reste un élu du peuple.
Toi, tu te dis pas c'est un dérapage, ça peut arriver. Bon, voilà quoi.
Mais il aurait fallu.
Presque.
Surtout qu'il est en récidive. Il a déjà eu un problème d'insulte avec les forces de l'ordre. Donc
manifestement, déjà en état d'ivresse.
Même sur des choses moins graves. Tu vois, là, on parle de quelqu'un qui a des problèmes visiblement avec l'alcool et qui a du mal à garder ses nerfs, il y a des bagarres, etc. Mais on se souvient que notre président de la République, à un moment, on l'a vu en combinaison de ski au ski, alors qu'il y avait des graves crises qui se passaient en France, ou qu'on a vu un de nos ministres sur une piste de danse à la veille de la crise des gilets jaunes. À un moment, il faut penser à 360 degrés quand on est élu. Vous êtes surveillé tout le temps et vous devez vous surveiller et être à la hauteur de ce qu'on attend de vous. C'est quand même une fonction.
Il ne faut pas non plus que ça soit des moines, il faut que ça reste des
moines. Je ne parle pas d'être des moines, mais il y a un moment, tu ne t'affiches pas en train de danser et t'éclater sur une piste de danse alors que le lendemain, ça va castagner avec les gilets jaunes. Enfin, à un moment, ils ont des conseillers, ces gens-là. Puis même, tu réfléchis, tu as une éthique personnelle. Tu as le droit d'avoir quand même une vie.
Excuse-moi, tu as le droit d'aller danser sur une piste de danse.
Tu choisis ton moment.
Ça veut dire que tu ne vas pas danser parce que le lendemain, il y a une manifestation. manifestation qui pourrait déraper.
Eh bah oui, Thierry, je suis désolée. Bah non. Tu fais gaffe à qui tu es.
C'est là. Alors tu vois des gens comme toi, ça va être des Robespierre de la vie publique. Et ça, c'est pas possible.
Alors Danton, il va se calmer. Ce que tu es en train de dire, c'est au théâtre, Aurélien, le député Aurélien Taché,
il est en public.
Et bah dans une boîte de nuit, t'es pas en public.
Mais ça n'a rien à voir. T'as quand même le droit d'aller en boîte de nuit, que tu sois ministre.
Que tu danses en boîte de nuit, ça n'a rien de.
Parce que là, reprends ce que tu dis. Réseaux sociaux aujourd'hui, tu fais gaffe.
Mais sauf que après derrière, t'as les Français qui te disent oui, il ne connaît pas le peuple, il ne sort jamais de chez lui. Donc en fait, il faudrait savoir est-ce que les députés et les ministres doivent sortir de chez eux, se confronter.
Bon, Emmanuel,
c'est le même peuple.
Je dis pas que tu fais partie des Français quand tu vas danser dans une boîte de nuit huppée parisienne.
Voilà.
Mais quelque part. Tu peux pas demander aux gens d'être comme les Français et leur demander à la fois aux députés et de pas sortir de chez eux. C'est pas possible.
Il y a peut-être un entre-deux, là. Tout ça est un peu caricatural. Il y a peut-être un entre-deux à trouver, quand même.
Emmanuel, il faut être extrêmement prudent parce que il y a un rejet des politiques en général et la politique n'attire plus. Je veux dire, si on devient trop rigide, si vous voulez, à ce niveau-là, on en demande trop en termes d'exemplarité au personnel politique, les gens n'iront plus en politique. On a un déficit aujourd'hui de personnes de qualité.
Les gens vont plus voter parce qu'on ne croit plus en nos politiques. Parce que ils sont pas exemplaires.
La politique n'attire plus.
Parce qu'ils nous cachent, des choses. Envie de voter. On a envie de voter pour des vraies personnes.
Oui, mais tu disais tout à l'heure. Tu disais tout à l'heure qu'il y a rien d'illégal. Je suis désolé. Sur le strict, enfin, je sais pas comment s'est passé la
semaine. Rien d'illégal.
Trouble à l'ordre public. Voire arriverait sur la voie publique s'il a continué à se battre.
Ça va. Ça s'est jamais condamné.
Et il sera jamais poursuivi et jamais condamné.
Oui. Non, mais c'est ce que je disais. Dès le départ, j'ai dit il y a la loi et il y a la morale.
Je suis d'accord. Oui.
Alors, on est avec Christine qui s'appelle de Jalogne. Dans le Cher. Bonjour Christine.
Bonjour Estelle. Bonjour, Christine. Bonjour à toutes et tous.
Bonjour. Je reconnais cette voix, Christine.
Oui, mais oui. Oui. Mais je suis dans le Cher maintenant. J'ai quitté la Nièvre, Estelle.
Mais je vois
vous
ça.
Avez Christine, quitté la Bourgogne
qui nous a très souvent appelé dans Estelle Midi et c'est toujours un plaisir. Christine, est-ce que les députés se doivent d'être exemplaires dans leur vie de tous les jours?
Absolument. Au même, alors je peut-être être un tout petit peu longue. Ne me coupez pas. Hein.
Oui,
absolument. Ils doivent être exemplaires au même titre qu'on nous demande à nous de l'être. Hein. On doit être irréprochable. On doit pas aller hors des rails. Alors moi, je vais vous faire un. Il y a eu Monsieur Taché. Ok, il a été ivre. C'est scandaleux. Il y a eu Katenens qui gifle sa femme. Il y a eu Abad, des plaintes pour viol. Réberotte, de Renaissance, salut nazi. Zakouropoulou, une gynéco qui est toujours secrétaire d'État, colère qui est dans des conflits d'intérêts, Darmanin, Dupond-Moretti, Pannier-Runacher. Et puis Macron soutient, parce que le docteur qui est présent, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, dit il faut être exemplaire à tous les niveaux. Eh bien oui, ça commence par Macron et ça se termine pour le citoyen lambda à ce moment-là. Parce que si on nous demande à nous, hein, pour les gilets jaunes, ça a été garde à vue pour une paire de lunettes de natation, d'accord? Parce qu'effectivement, quand on manifeste, on se prend, les flics nous envoient des gaz. Mais à ce moment-là, il faut être... On nous demande à nous, citoyens lambda, d'être exemplaires. On a une politique autoritaire, grâce à Darmanin et Macron. Eux, c'est pareil. Un député Renaissance...
ce que vous dites, Christine, c'est si on nous demande à nous d'être exemplaires et de rester dans les clous, il faut que nos politiques le fassent aussi. Merci, Christine, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Excusez-moi d'avoir été longue.
Mais non, vous avez été parfaite, Christine, comme d'habitude. Notre invité sur ce débat, c'est Franck Tapiero, spécialiste en communication. Bonjour, Franck.
Bonjour, Estelle. Bonjour, tout le monde. Bonjour,
et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Et Franck, c'est un débat un peu enflammé sur le plateau. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec cette exemplarité des députés, vous qui êtes spécialiste en communication, là pour le coup, pour Aurélien Taché, c'est une mauvaise com, quand même.
C'est une mauvaise com, mais je dirais que pour toute la politique, pour toute la classe politique, c'est une mauvaise com, parce que on peut parler d'exemplarité, mais moi je parlais aussi de responsabilité. Et on oublie ce mot-là. Et en fait, c'est vrai qu'on oublie que d'abord, quand on a une fonction, quelle qu'elle soit, il faut qu'on soit responsable. Moi, je suis totalement d'accord que on doit être humain, on doit rester comme tout le monde, essayer le maximum d'être comme tout le monde. D'accord, mais pas faire être comme tout le monde, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et il a fait n'importe quoi, et on voit aujourd'hui que certains confondent le pouvoir politique avec le pouvoir absolu, comme l'a dit d'ailleurs leur idole, leur gourou, Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi, ce gourou de secte qui n'a plus rien à voir avec la politique. Et, mais la différence, elle est là. Avant, on avait des hommes politiques qui étaient responsables, pour la plupart, exemplaires, qui avaient de temps en temps des petits pétages de plomb. Là, aujourd'hui, c'est des sorties de route. Pourquoi c'est terrible? Parce que pour tous les jeunes qui ne vont, qui n'ont plus voté, qui aimeraient voter, qui veulent s'engager pour la citoyenneté, mais qui ne retrouvent plus dans les hommes et les femmes politiques les vecteurs, justement, de leur engagement, c'est quoi? Ben, ils se disent, ben, finalement, ces gens-là, c'est « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Donc, c'est exemplarité, responsabilité, et on voit bien que, oui, quand on est un homme politique, on est un homme public. Et même si on sait aujourd'hui qu'il n'y a plus de sphère publique, il n'y a même plus de sphère privée, il y a une sphère intime, il faut faire attention tout le temps, parce que c'est comme ça. Ils ne peuvent pas se plaindre, puisqu'ils se servent de cette hypermédiatisation pour être connus. Et après, bien entendu, quand cette hypermédiatisation, surtout le contrôle, c'est toujours la faute des médias, et la faute de Twitter, et la faute de machin. Donc, à un moment, il faut qu'ils soient juste responsables, et qu'ils se disent qu'ils ont un rôle à jouer, une fonction, mais surtout une fonction, pas seulement pour leurs idées, mais pour l'ensemble de la classe politique, et je dirais pour les citoyens que nous sommes, qui ne se sentent plus représentés.
Après, je suis d'accord, Franck, mais cela dit, évidemment, Aurélien Taché, c'est un député, mais c'est aussi un citoyen. Et quelque part, les Français peuvent se dire, bah, comme tout citoyen, il peut lui arriver de déraper. Là, c'est un gros dérapage. Je pense qu'autour de ce plateau, personne n'a jamais
perturbé
une représentation théâtrale.
Mais ça veut dire
qu'en fait, enfin, quelque part, c'est aussi, voilà, il est humain, il est député, il a dérapé, il a pété un plomb. Ça peut arriver à n'importe qui de péter un plomb. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être ce côté, même si c'est moralement répréhensible, on est évidemment d'accord, il faut condamner cet incident, mais il y a ce côté, je suis comme tout le monde, je peux péter un plomb. C'est pas parce que je suis député que voilà, rien ne peut m'arriver, en fait.
Oui, mais il menace en partant en disant, je suis député, vous entendrez parler de moi. Et c'est là, si vous voulez, où ça modifie complètement la chose.
Absolument. En fait, je vais vous dire, s'il avait pris la parole ce matin très tôt, ou même hier soir, un peu après avoir décuvé, et en disant, écoutez, j'ai vraiment dépassé les bornes, c'est inadmissible que...
On vous a perdu.
Non, mais c'est ce que dit Franck. C'est ce que dit Franck. Il représente la France, en fait. Il aurait dû s'excuser. Moi, je suis d'accord avec Franck Tapie. Bah, il peut encore. Il s'est excusé, mais alors, j'ai ses excuses sous les yeux. C'est énorme. Il a dit, en fait, j'ai voulu applaudir sans faire de bruit en agitant les mains. Ce que l'acteur n'a pas compris, il m'a donc demandé de sortir. Ce que j'ai fait. Certes, en râlant, en disant que c'était inadmissible, mais je suis sorti. Mais je suis quand même surpris de la réaction du metteur en scène qui se permet en plus des accusations. Je sortais simplement d'un dîner où j'avais bu un verre ou deux avant. Bon, là, les excuses sont bidons, on va pas se mentir.
C'est bidon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, vous savez, il y a un truc terrible, mais je l'ai vécu avec plein d'hommes et de femmes de pouvoir, soit dans la politique ou ailleurs. Ce qui les motive, vous savez ce que c'est? C'est l'impunité. Et c'est l'impunité qui vous donne cette sensation de pouvoir. Et en fait, aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité. Pourquoi? Même que ce soit une faute morale ou pénale, finalement, elles qui sont vraiment inquiétées, pas tant que ça. Donc je pense que la justice, et voilà pourquoi j'ai toujours été, et pourtant j'en ai connu des politiques, doit être beaucoup plus dur avec les hommes politiques qu'avec les autres, parce qu'ils sont justement dans cette responsabilité, cette exemplarité qu'ils demandent aux Français, comme l'a dit très justement votre auditrice. Donc on ne peut pas, encore une fois, tout demander et rien faire. Donc moi, c'est très facile de dire, d'avoir des fausses excuses, alors qu'il aurait été, il aurait eu un bon conseil, ça aurait été de ce matin, lui prendre la parole en disant, hier, il y a eu un acte, vraiment, il y a eu quelqu'un qui a très mal agi, etc., et cette personne, c'est moi. Il aurait fait un truc comme ça,
je crois.
L'autoflagellation. Bien sûr.
Mais bien sûr, en disant, voilà, c'est inadmissible, cette personne, c'est moi, je tiens non seulement à m'excuser, à dire que ce comportement est inadmissible, non seulement par rapport aux gens que j'ai gênés pour la pièce, mais est inadmissible par rapport à la classe politique, et je m'excuse auprès de tous mes collègues de l'Assemblée, etc. Là, il aurait pris le dessus, et vous savez très bien, comme...
Il lui reste un peu de temps, hein. Il aurait récupéré le récit, parce que ce que vous êtes en train de dire, Franck Tapiro, et le problème, c'est que l'impunité, vous avez raison, elle commence sur des incivilités comme celles dont on parle.
Bien sûr.
Et merci beaucoup, Franck Tapiro, puis on verra si Aurélien Taché écoute vos conseils et si demain il explique qu'il y a eu un problème, qu'il est vraiment désolé, que c'est le moment de passer sa pensée, blablabla.
Par ce mauvais acte, je me permets de le faire quand même.
Bravo. Oui, écoutez, on ne l'avait pas encore fait, donc c'est formidable. Merci Franck, en tout cas, d'avoir été avec nous. On a Kader Dali qui nous appelle de Nancy. Bonjour Kader Dali.
Bonjour à tous. D'ailleurs, j'ai bien aimé la réplique entre Robespierre et Danton tout à l'heure.
Moi aussi. Très belle réplique d'Emmanuel Dancourt.
J'ai adoré.
Mais moi aussi.
Moi, j'ai un tout autre avis là-dessus. J'ai grandi dans la Chiracie, moi, à l'époque de Raffarin, qui disait « Votez pour ceux qui vous ressemblent ». Donc, les Français, ils les ont pris au mot, en fait. En France, c'est assez paradoxal. On a 66 millions de sélectionnaires au foot et on a 66 millions de députés, on a l'impression. C'est-à-dire que les Français, on veut la sévérité pour les autres, mais on ne la veut pas pour soi-même. Moi, je pense que ces élus du peuple sont du peuple, donc ils leur ressemblent. On a quoi dans le peuple? On a des gens qui peuvent s'énerver, on a des gens qui peuvent déraper, on a des gens qui... C'est pas des voleurs, c'est pas des arnaqueurs, je pense que c'est des gens peut-être qui veulent s'investir politiquement.
Oui, mais sauf qu'il est élu. Il est élu, il n'est pas monsieur tout le monde.
Élu, c'est pas au sens religieux, hein, c'est au sens politique. Hein.
Ouais, je suis d'accord, mais il représente le peuple.
Il représente le peuple, ben le peuple est comme ça, on l'a oublié.
Mais oui, d'accord, mais en fait, a priori, on n'élit pas un député pour qu'il il soit, on il perturbe nos représentants théâtrales.
Vous remontez et qui légifère vos désagréments comme ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et malheureusement, il y a des gens qui sont un peu plus, comment dirais-je, qui ont un peu plus de tripes quand ils parlent ou un peu plus, ils sont plus expressifs. Et je pense que plus on va arriver, plus on aura ces franchouillards, comme on les appelle. Des gens qui peuvent être pilier de barre et demain un député.
Bah, c'est embêtant.
Qui peut devenir député. Un boxeur qui peut devenir député. C'est plus des énarques maintenant.
Non, mais attends, mais ça, c'est pas grave, soit plus des énarques. Tant mieux, à la limite. Mais qu'un boxeur soit élu député, il n'y a pas de problème. Qu'un pilier de barre, comme vous le dites, là, ça me gêne un peu plus, vous voyez, enfin, a priori.
Malheureusement, le pilier de barre, comme vous l'appelez, c'est un Français.
Oui, mais sauf que.
Il peut peut-être rentrer dans le rang.
Il faut qu'il soit élu déjà. Hein.
Et bah, il peut être élu. Vous savez, être élu, vous avez vu à quoi ressemblait l'Assemblée nationale. Vous aviez montré cette photo de l'Assemblée nationale il y a 30 ans aux députés, vous n'aurez pas cru.
Mais Kader Ali, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les Français qui veulent des gens qui leur ressemblent, mais aussi qui veulent des gens qui aient la stature? C'est pour ça qu'on a dit, par exemple, que certains présidents endossaient le costume présidentiel, et à côté de ça, on veut que ce soit un peu monsieur tout le monde. Donc il y a quand même une sacrée contradiction dans ce que vous dites.
Non, mais il y a une contradiction. Après, ce que dit Kader Ali, et on peut le comprendre, c'est qu'effectivement, les députés sont des hommes comme les autres. Merci Kader Ali d'avoir été avec nous, en tout cas. Et on va terminer avec Jean-Christophe, qui est viticulteur. Il y a peut-être un avis un peu différent sur la question, et qui nous appelle de Troyes. Salut Jean-Christophe.
Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Et vous êtes élu en plus, vous?
Oui, je suis élu dans une petite commune, hein. Un tout petit village. Hein. Donc oui, je suis élu. Donc c'est pour ça que je réagissais, c'était par rapport à Emmanuel, quand elle a la question sur les députés. Mmh. Et après, elle a parlé de tous les élus en général. Et je me disais, mais nous, dans les petits villages, on est amené à faire la fête dans les fêtes de village, on est amené à boire un coup. Bon, par contre, ça finit pas en bagarre, je vous rassure.
Bah voilà.
On sait se tenir. Mais je veux dire, si on dit à tous les élus de toute la France qu'ils doivent rester corrects, limite à un truc monacal, on aura
Mais non, mais il y a un entre-deux quand même, Jean-Christophe.
C'est ça que qui m'avait fait un peu réagir, c'était sur les propos d'Emmanuel. Alors
que j'aime bien vous êtes dans quel village? Que j'habitais à côté de Troyes, moi, dans un tout petit village. Non, mais ça m'intéresse. Vous êtes où?
Pas loin de Bar-sur-Aube.
Voilà, okay. On va aller faire un cours de géographie après un cours d'histoire. C'est formidable.
Mais voilà, c'était surtout ça.
Mais vous avez raison.
Les députés doivent bien se tenir, enfin, doivent faire attention dans tous les cas. Mais bon, là, il y a eu trouble à l'ordre public. Là, je suis d'accord, ça va beaucoup trop loin. Mais bon, mais sinon, c'est pas non plus. Si un député va au resto boire un coup avec des autres collègues et tout, on va pas non plus l'alpaguer parce qu'il a bu un coup en sortant du resto.
Non, mais vous n'auriez pas l'idée de dire, attention, je suis adjoint au maire, vous allez entendre parler de moi. Ouais. Je sais pas si vous êtes adjoint au maire.
Non, jamais de la vie.
Voilà, c'est ça, la différence.
Et vous n'avez pas foutu en l'air une pièce de théâtre où il y a des publics qui a payé pour venir la voir et qui a tout gâché.
Il a été discourtois à la fois avec les acteurs, à la fois avec le public, et surtout il s'est pas excusé, quoi. Ouais. C'est ce que disait Franck Tapiro tout à l'heure. Si c'était excusé encore, mais là il y a quand même des gens qui ont payé leur place.
C'était
et
puis
leur représentation théâtrale.
Ils nous prennent pour des cons parce que même moi, hein, ou de verre, je suis pas saoul alors que je bois pas d'alcool. Alors voilà, c'est évidemment qu'il avait.
J'aime beaucoup cet argument qui est vraiment.
C'est l'impunité, elle démarre là. L'impunité, elle démarre là. Je suis désolée.
Parce qu'il a pas bu un ou deux verres, enfin.
Bien sûr.
Il a vécu son bidon.
Au lieu de faire en bonne et due forme quelque chose de sobre et des excuses, et on oublie.
Mais il ne pouvait pas dire j'ai bu d'hiver.
C'est pas possible. On va terminer avec des messages, Thibault.
Véronique qui nous dit ce qui est choquant, ce n'est pas qu'Aurélien Taché soit ivre à un spectacle, c'est qu'au moment de son éviction, justement, on l'a évoqué, il est arrivé son statut de député. Les élus sont là pour nous représenter et montrer l'exemple, explique Laurent, ancien électeur de gauche. Il comprend que les Français ne votent plus, ce n'était pas mieux avant, mais à l'époque, les députés savaient se tenir en public ou dans l'hémicycle. Pour Mathieu, on demande aux députés de se mettre à hauteur des Français. Voilà un exemple de liberté en dehors de mon boulot. Moi, je fais ce que je veux, sauf que je n'ai pas les médias sur le dos après avoir bu un coup. Si je fais mon travail correctement,
oui, puis il n'est pas élu.
On n'a rien à me dire. Non, mais justement, c'est ce qu'il dit. Et puis, il y a un sapeur-pompier aussi qui nous écrit, c'est Stéphane, qui nous dit que les pompiers sont obligés de signer une charte dans laquelle ils disent qu'ils seront en représentation, qu'ils soient en service ou hors service. Si demain, ils se bagarrent dans un bar, on dira un pompier était dans la bagarre.
T'engages voilà. Tout le corps, avec voilà. Tout le corps des pompiers.
Et comme quand t'es dans une entreprise, d'ailleurs, ne serait-ce que médiatique, c'est le même problème. Alors, les députés se doivent-ils d'être irréprochables partout, tout le temps, Thibault?
C'est sans appel. 83% oui, les députés doivent être irréprochables. Ah,
bravo les gens. Ah oui, donc là, c'est effectivement sans appel. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC, on va parler de cette histoire des enfants qui sont accompagnés par des policiers pour aller à l'école parce qu'ils vivent, vous savez, à côté de la colline du Crac. À Paris, on se demandera si Jean Castex pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et puis, que commandent les Français en livraison? On vous dira quels sont les principaux plats commandés par les Français quand ils commandent des livres ou Uber Eats. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble chaque jour, du lundi au vendredi, de midi à 15h, avec une formidable équipe autour de la table, Thibaut Texer, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Robert Sebag. Il est 13h29 et c'est l'heure du zapping, le meilleur des RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On démarre avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Depuis des années, le nord de Paris est le repère de nombreuses personnes accro au crack. Les riverains se retrouvent en insécurité dans certaines rues. La police est même obligée d'accompagner les enfants à l'école. Alors est-ce un aveu d'impuissance de l'État? Témoignage ce matin de Priscilla, elle est mère de famille et déléguée de parents d'élèves.
Ce qui se passe, c'est que notre quartier, comme vous l'avez dit, est un quartier qui est enclavé. On a des parents qui viennent d'un bâtiment qui est derrière le périphérique et ils manquent ce passage pour passer. On a été obligé de demander la continuité du dispositif qui avait été mis en place par la mairie pendant les vacances scolaires, parce qu'au retour des vacances scolaires, les parents arrivaient totalement en panique. Il y en a qui pleuraient parce que sur ce chemin, en fait, il y a de la mendicité agressive, il y a de la prostitution, il y a beaucoup de choses que les enfants ne devraient pas voir. Que ce soit dans cette allée ou dans le quartier en lui-même, nos enfants assistent à toute scène sexuelle. Donc c'est un lieu de consommation à ciel ouvert aussi. Donc nos enfants en fait voient tout. On enlève toute l'innocence à nos enfants. Et je tiens à préciser que c'est pas qu'une école primaire. Il y a aussi l'école maternelle. Donc il y a des enfants âgés à partir de 3 ans en fait.
Mais c'est scandaleux, Thierry Moreau, d'entendre ça, quoi. Voilà, que des enfants puissent assister à ça, qu'on soit obligé quand même de demander à des policiers d'accompagner des gamins à l'école, alors qu'on dit qu'il faudrait peut-être régler le problème, ça serait même plus simple.
Alors, c'est des policiers municipaux. Ouais. Il y a aussi une navette qui est mise en place par la mairie pour.
À Lucie.
Il y avait déjà eu le cas il y a quelques années à la Riboisière, où il y avait des policiers qui accompagnaient les gens qui rentraient, qui sortaient, parce qu'il y avait des risques d'agression. Là, c'est le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un problème et qu'on met une mauvaise solution. Parce que c'est une solution qui n'est pas pérenne, c'est un cautère sur une jambe de bois. C'est-à-dire que ça ne va rien résoudre. Et une fois de plus, les gens qui sont dans cette situation de crack, il faut
obligés de vivre ça. Quoi.
Non mais on déplace la colline du crack, on les met ailleurs, on les met à Pantin, on les met à la Vilaine.
Bah, tu les soignes peut-être déjà en fait.
Bien entendu qu'on les soigne.
Sais, quand j'étais au collège, moi, à chaque fois que j'arrivais à mon collège à Dijon, on glissait sur des préservatifs complètement pleins et il y avait des seringues par terre et il n'y avait jamais rien qui était fait. Et au collège, hein, au collège, comment ça m'a choquée, alors j'imagine... Thierry Moreau qui est mort de rire. Moi, ça m'a pas fait rire. J'étais hyper choquée quand t'arrives en sixième. Et t'imagines les maternelles et les primaires, là, qui en plus, c'est beaucoup plus important ce qu'ils voient. C'est de te faire rire.
Non, mais on fait quoi, Robert? On les déplace encore une fois. C'est craqueux, comme on dit. On les soigne, on les met dans un centre. On fait quoi? Parce que c'est pas
le
possible.
Crack, bien sûr qu'il y a un problème de santé publique. Le crack est la pire des drogues. Pourquoi c'est la pire des drogues? Parce que d'abord, c'est la moins chère. Et deuxièmement, c'est la plus addictive. Et troisièmement, si vous voulez, c'est une des plus dangereuses. Alors, déjà, ce sont des malades. Et les malades, on les soigne. Et là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Est-ce que c'est la responsabilité de la mairie de Paris? Est-ce que c'est la responsabilité
de
l'État? Tout le monde se renvoie la balle.
Et personne n'en veut, évidemment.
On peut pas laisser ce genre de choses vis-à-vis des enfants, parce que c'est à la fois du crack, c'est aussi de la prostitution.
C'est ça.
Et souvent, si vous voulez, pour se payer des doses, il faut... De crack, il faut se prostituer.
Oui. Donc, et c'est à ciel ouvert.
Et vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer dans 2 ou 3 jours? Il y a une opération de police pour virer tout le monde.
Oui. Et on va les appeler.
Ils vont aller ailleurs.
Oui.
Donc le problème sera réglé là, à cet endroit précis.
Et ils vont revenir.
Et ils vont revenir.
C'est sans fin.
C'est sans fin.
C'est
traiter, soigner.
Et pour les familles qui vivent ça, c'est
un enfer.
Et de nombreuses familles veulent déménager, mais sauf que la double peine, leur appart ne vaut plus rien, puisque évidemment, il est dans cet environnement. Donc voilà, c'est absolument sans fin. Les GG ce matin, Jean Castex, candidat à l'élection présidentielle en 2027. Est-ce que vous y croyez? L'ancien Premier ministre et désormais président de la RATP vient d'être décoré de la Légion d'honneur. Et certains députés macronistes estiment qu'il peut encore apporter à la France. Mais le prof d'histoire géo des GG, Kevin Bossuet, n'y croit absolument pas.
Moi, j'aime beaucoup Jean Castex, hein, c'est quelqu'un de très sympathique, etc. Mais à un moment donné, un peu de sérieux, je veux dire. Enfin, il y a bien des Nicolas Dupont-Aignan qui se voient président de la République, pourquoi pas Jean Castex.
Bah, à un moment, je pense qu'il est. Matignon pense à l'Élysée.
Ouais, non, mais vous voyez bien que c'était. Pour moi, c'est un peu. Vous savez, dans l'Empire romain, il y avait des empereurs qui n'étaient pas là pour durer. Par exemple, c'est Nerva qui était là pour attendre une autre succession, un grand empereur qui allait arriver. Pour moi, Jean Castex, il est un peu là-dedans. On l'a mis là pour qu'il ne fasse pas d'ombre au président de la République. De là à se présenter dans une campagne présidentielle, ça n'a évidemment aucun sens.
Jean Castex, candidat à l'élection présidentielle, vous y croyez ou pas, Thierry Moron?
Pas du tout. D'abord, il faut jamais oublier la malédiction de Matignon, c'est-à-dire qu'à part Georges Pompidou, qui a été Premier ministre et ensuite est devenu président, il n'y a pas de gens qui soient passés par Matignon.
Parce Chirac, quand même.
C'est Chirac, de... Chirac.
Oui, Chirac, c'est vrai. Chirac. Il y a l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer de Matignon, très grand, mais il était en cohabitation, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Il avait la main.
Il avait un parlement. Il gouvernait. J'y crois pas. Et surtout, tirer des plans sur la comète aujourd'hui, alors qu'en plus on est dans une situation, on sait même pas ce qu'il va y avoir dans 6 mois sur la situation financière, politique, internationale, etc. Penser que quelqu'un peut être candidat présidentiel, enfin, j'y crois pas.
On l'a dit sur Édouard Philippe,
il peut se passer énormément de choses jusqu'à 15 jours avant l'élection, donc j'y crois pas du tout.
Il peut se présenter 15 jours avant l'élection, vous le savez.
Mais il vient d'être président de la RATP avec tous les problèmes de la RATP, si vous voulez. Et c'est pas parce qu'il est récipiendaire de la Légion d'honneur qu'il va être tout d'un coup, parce qu'il reçoit la Légion d'honneur, il pourrait être président de la République.
Bon, ça c'est. Mais enfin, il a été Premier ministre,
toutes ces bonnes images, les Édouard Philippe, etc.
Ça a été un Premier ministre. Pas du tout politique, ça a été un Premier ministre technicien. Et il a géré, surtout en particulier, et plutôt pas trop mal, assez apprécié des Français.
C'est ce qu'on dit toujours, la crise des Premiers ministres, une fois qu'ils sont plus en exercice, alors que tout le monde est critique.
C'est pas du tout un homme politique. C'est un haut fonctionnaire, assez efficace. Et donc, je crois que même dans sa tête, il envisage, il est à mille lieues d'envisager une candidature à la présidence de la République.
Son entourage dit justement qu'au contraire, il l'envisage très bien. Ceux qui sont dans sa tête, oui, ce matin,
Vous aviez deux personnes dans votre tête tout à l'heure, maintenant il y a des gens dans la tête de Jean Castex.
Moi, s'il n'y avait que deux personnes dans ma tête. Mais voilà, disons que parfaitement, il se projette. Mais moi, je peux comprendre qu'un homme comme ça se projette. Il a été Premier ministre, d'un seul coup, il est sorti de l'anonymat. Les Français le connaissent, on garde visiblement une trop mauvaise image comme Édouard Philippe, ils vont tous tenter leur chance puisque Macron ne pourra pas se représenter. Mais par contre, c'est tellement tôt.
Mais d'abord, il peut y avoir des solutions et surtout tirer des plans sur la comète.
Mais complètement.
À X années du
mais moi, j'aime bien qu'on fasse des comme ça, des hypothèses,
parler les journalistes, les chroniqueurs politiques.
Les favoris, on voit ce que ça donne. Regardez l'histoire de Balladur qui était archi favori, s'est planté.
Faudrait déjà que Castex soit favori, on n'en est pas là.
Oui, c'est vrai que c'est aussi une hypothèse qui n'est pas. Les GG encore ce matin. Faut-il interdire Twitch au sein de l'Assemblée nationale? C'est le député LFI Hugo Bernalicis qui avait pour habitude de retransmettre en direct les séances sur l'application Twitch et qui désormais ne pourra plus le faire. Une interdiction que ne partagent pas les GG.
Moi, je suis partagé là-dessus parce que je trouve qu'en même temps qu'un député utilise, comme lui, les moyens modernes de communication, ça me choque pas. Alors après, peut-être que pendant la séance, il est censé être concentré sur ce qui se passe et pas faire sa propre promo. Mais qu'un député aille sur Twitter, Twitch, enfin, c'est normal, ce sont les nouveaux moyens de communication.
Mais c'est le même qui fait live, en fait. C'est le live, je pense. Et d'être application très intrusive.
Tout le monde n'est pas sur utiliser ses moyens de communication.
Bah oui, moi, je pense aussi. Et puis, quand j'ai déjà regardé des débats parlementaires, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Moi, si j'étais député, je passerais mon temps sur Twitter, sur Instagram, sur machin, pour passer le temps. Enfin, c'est horrible, ces débats. Enfin, qu'on leur fiche la paix du moment qu'ils font un vrai travail, que leurs collaborateurs travaillent. Moi, ça me gêne pas. Ils font ce qu'ils veulent.
Est-ce que c'est logique d'interdire Twitch au sein de l'Assemblée, Thierry?
Alors, la retransmission en live de ce qui se passe dans l'enceinte, j'ai envie de dire oui, parce que le député, il est là pour écouter. Alors, il n'intervenait pas sur la caméra, il montrait simplement ce qui se passait de le débat. Donc c'est,
dans ces cas-là, les gens ont qu'à se mettre sur la chaîne Assemblée nationale.
Sauf que Hugo Bernalicis va vous expliquer que les gens qui le suivaient sur Twitch ne regardent pas la télévision. Ce sont des jeunes qui ne regardent pas la télévision.
Ils peuvent regarder, il y a une appli.
Oui,
sauf que les jeunes ils sont sur Twitch.
Sauf que l'appli s'en fout de ce qui ils sont sur Twitch les jeunes.
Quel jeune de 15 ou 16 ans regardait Hugo Bernalicis?
Il y en a un certain nombre qui regardaient parce qu'il y a beaucoup de gens qui se politisent sur ce nouveau réseau social. D'ailleurs, il y a des hommes
politiques. Ça dépend le débat. Et
simplement,
ça dépend le thème,
moi je pense qu'il faut qu'il fasse son travail de député pendant les séances et ne fasse pas de live Twitch et qu'en revanche qu'après il débriefe avec ses streamers, avec ses viewers, les gens qui le regardent en disant voilà, il s'est passé ça. Moi j'ai j'ai pris telle position, c'est ça qui s'est expliqué la politique. Oui, la retransmission en live, l'enceinte de l'Assemblée, on n'a pas le droit d'y filmer en dehors des images autorisées par LCP. Donc, c'est dans la droite ligne du règlement de l'Assemblée.
Est-ce que pour l'Assemblée, on fait tout maintenant, hein. On vapote, on stream. Non, mais c'est extraordinaire.
Non, mais pour autant, est-ce que ça peut pas. Moi, je n'étais pas choquée par ça. Est-ce que ça peut pas faire naître justement des vocations, des gamins, des ados qu'on emmène dans ces hémicycles-là où ils n'auraient pas vraiment accès? Quel gamin de 15 ans va regarder LCP Assemblée Nationale? Enfin, sérieux.
Si tu fais l'effort d'aller sur le stream d'Hugo Bernalicis, tu peux très bien faire l'effort, je veux dire, de télécharger l'application
LCP. Ça se passe pas comme ça. Ils sont sur Twitch et ils chopent à un moment le fait qu'il y a un programme qui les intéresse parce que tiens, il y a quelqu'un qui est à l'Assemblée qui retransmet. Ils zappent en fait sur Twitch, sur tout ce qu'il leur est proposé. Pardon?
C'est comme des.
C'est ça.
D'accord, les vidéos Instagram où tu.
C'est ça.
D'accord,
ok. Donc ils chopent ça. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est à l'Assemblée qui regarde. Mais donc moi, je me dis que tant qu'il fait un live pendant la séance, il fait pas son boulot de député. C'est un peu ça qui est gênant.
Encore l'exemplarité.
Exactement. Apolline Matin, ce matin, que commandent les Français en livraison? Une célèbre enseigne de livraison de repas et de courses, Uber Eats, pour ne pas la citer, vient de publier la liste des produits les plus commandés cette année en France et Charles Magnin nous en dévoile les plus insolites.
Le 17 janvier 2022, c'était le Blue Monday, le fameux jour le plus déprimant de l'année. Et bien ce jour-là, un record, 1839 tablettes de chocolat ont été commandées. Pour la Saint-Valentin, autre record, 242 boîtes de préservatifs le même jour sur la plateforme. Lors des pics de chaleur, tiens, 17 juin dernier, on s'en souvient, il faisait très chaud, 625 déodorants commandés sur la plateforme Uber Eats.
Il y avait urgence.
Oui, il y avait urgence. Il y a aussi la Journée mondiale des célibataires. Là, ce sont plus de 2000 pots de glace qui ont été commandés en urgence aussi. On apprend aussi que les Français sont plus mayo que ketchup. Ça m'a surpris. Deux fois plus de commandes de mayonnaise sur l'année plutôt que du ketchup. Mais oui, enfin, débat houleux tous les matins à la rédaction. Et bien, sachez que les croissants ont la faveur des Français devant les pains au chocolat.
Bien sûr, team croissant tous les jours. Robert Sebag, est-ce que vous commandez, vous, sur les applications comme ça?
Non, attendez, ce qui me fait plaisir d'abord dans les chiffres qu'on a donnés, c'est le nombre de préservatifs. Parce que ça, il y a une remontée absolument spectaculaire des maladies sexuellement transmissibles.
D'accord.
Si vous voulez, par les gens ne se protègent plus. Donc là, je vois, ça me fait. Alors, je pense que c'était pas pour faire des ballons, c'était effectivement pour les utiliser. C'était le jour de la Saint-Valentin. Alors, moi, j'aurais cru en termes de plats, si vous voulez, que j'aurais mis en premier le couscous et en deuxième les pizzas.
Oui, alors c'était les plus insolites. Donc en fait,
alors, c'est effectivement pas insolite. Bon, après, le chocolat, bon, oui, pourquoi pas. Chocolat. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, je répète, ce sont les commandes de préservatifs.
Très bien.
Vous
rendez
bien ce que racontait Emmanuel tout à l'heure.
C'est pas très bon pour la natalité.
Effectivement. Mais c'est très bon pour la santé publique.
Vous vous rendez compte que cette situation et cette discussion ne concerne qu'exclusivement les citadins? Moi, Uber Eats, je commande absolument jamais, sauf une fois à l'hôtel à Paris où j'ai toujours commandé de la nourriture asiatique parce que j'ai pas envie de sortir à la chambre. Mais c'est quand même très très urbain ce que vous racontez là.
Mais on est d'accord.
Non, parce que maintenant, moi qui habite à la campagne, dans le village d'à côté, il y a une pizzeria qui fait de la livraison à domicile. Il y a un restaurant chinois.
Il n'y a pas Uber Eats.
Il
n'y
a pas
Uber Eats.
Il y a Uber Eats. Mais donc, le phénomène de la livraison, justement, moi, ce qui m'interpelle dans ce que raconte Charles Magnin, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout faire de son canapé dans des proportions hallucinantes.
Tu aurais l'idée de te faire livrer du déodorant, toi, par Uber Eats?
Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu commandes Uber Eats. Aujourd'hui, t'as un service de course.
Oui.
En fait, ou comme Amazon. Donc, en fait, t'es en train de commander, je sais pas, tu fais ton marché. Tout d'un coup, tu te dis, bah, tiens, j'ai besoin d'un déodorant. C'est comme comme Monoprix ou Carrefour ou tout
ça.
Donc, en fait, c'est un truc d'aubaine.
Un achat d'opportunité.
Plutôt que de descendre au supermarché.
Bouger tes fesses et descendre au supermarché et faire 200 mètres.
Bah oui, d'accord. Ça fait qu'on devient tous des
obèses
sédentaires et des feignants.
Et tu verras que de ton canapé à la campagne, un jour, tu commanderas tout.
Et oui, et il y a des drones qui arriveront chez toi, Emmanuel.
Ouais, ça, j'ai appris ça,
J'ai appris ça. Tu commandes toi aussi, Thierry?
Un petit peu, de temps en temps, oui, ça arrive. Mais je préfère en général me déplacer au camion quand il y a un camion ou me déplacer
au cul du camion.
Voilà.
Et puis, de toute façon, vous êtes en électrique, donc vous avez le droit. Thierry, on va terminer avec un extrait d'Apolline Matin. Un numéro vert est-il une réponse pour nos entreprises? C'est l'annonce faite sur RMC ce matin par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a mis en place un numéro vert afin que les entreprises en difficulté pour payer leurs factures puissent se faire aider. Écoutez.
Nous mettons en place un numéro vert. Je profite de votre antenne pour le
donner. Allez-y, dites-le.
0806 000 245. Je répète, 0806 000 245. Vous êtes une PME.
Ça, c'est quoi? C'est les entreprises
ça,
qui appellent?
Vous avez une difficulté. Vous venez de recevoir votre facture. Les 20% en moins sont indiqués. Vous savez qu'au 1er janvier, en plus de cela, vous pourrez déclarer vos factures au guichet que je viens d'annoncer et avoir une réduction jusqu'à 35%. Et malgré ça, Vous avez accumulé des dettes d'URSSAF, vous avez accumulé des problèmes de trésorerie.
Vous avez parfois le PGE,
vous n'y arrivez pas.
Avez...
Et malgré tout, votre entreprise, votre boulanger, vous riez avec 5 ou 6 salariés, elle a de belles perspectives devant elle et il n'y a aucune raison qu'elle ferme. Vous appelez, on vous apportera une aide. Ça pourrait être un étalement de la dette sociale, ça pourrait être un soutien de trésorerie. Il y aura un soutien pour chaque entreprise.
Vous ne laisserez mais... tomber personne.
Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'est pas plus compliqué comme numéro vert, je le redonne, hein, que 0806 00045. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Oui, après... Tu...
Tout doit être pris, remarquez bien.
C'est ça, il y en a tellement c'est... des numéros verts. Mais c'est rigolo parce qu'il y a une petite pique d'Apolline à un moment, oui, disant c'est un peu le gouvernement des numéros verts. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un numéro vert qui est mis en place.
Non, mais...
Quand il a commencé à le donner... Quand il a commencé à le donner, je me suis dit, il va se faire ramasser. Et effectivement, il s'est fait ramasser derrière parce qu'on a un peu l'impression qu'à chaque... Alors après, le dispositif, c'est pour permettre aux gens d'avoir une ligne directe et d'avoir quelqu'un qui parle au bout du fil.
Et
ce que Apolline a expliqué, justement, c'est on espère qu'il y aura quelqu'un, justement, et que c'est pas un numéro qui va tomber sur un disque et qui va venir de rappeler plus tard. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un au bout du fil qui résolve vraiment votre problème quand vous êtes dans la mouise.
Les humoristes, il y a encore quelques mois, s'en tapaient d'étranges de ces numéros verts où effectivement, il n'y avait pas forcément quelqu'un au bout, puis il y avait numéros verts absolument pour tout, comme si ça devait résoudre quoi que ce soit. On sent que ça part d'une bonne volonté. Mais
à mon avis, les artisans, ils avaient envie d'autre chose que d'un numéro
vert. Mais bien sûr. Bah d'ailleurs,
c'est surtout que si l'administration est obligée de mettre en place des filières directes pour parler à ses administrés, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que l'administration ne sait pas communiquer avec les administrés.
Exactement.
Donc on a un problème.
Et d'ailleurs, c'est pas forcément très bien pris, les mesures qu'il a annoncées. On a déjà eu des premières réactions.
Non,
ça passe pas très bien.
Je pense que les artisans attendaient autre chose. Dans un instant, on va parler conso avec Paul Lassen. On va parler du vrac. Vous savez, il y a quelques semaines, quelques mois, on nous disait que c'était formidable. Il fallait absolument aller avec ces sacs en toile de jute, là, comme ça, dans les supermarchés pour aller acheter ses céréales. Eh bien, on en revient. Bizarrement, non, pas du tout bizarrement. Et on vous expliquera pourquoi on en revient, justement. À tout de suite avec Paul Lassen dans la nuit de conso.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler conso avec Paul Lassen.
RMC, Estelle Midi,
la minute conso.
Et aujourd'hui, on va parler d'une tendance de consommation. En tout cas, c'était annoncé comme une tendance de consommation. On va parler du vrac, sauf que cette tendance, Paul, elle n'est plus vraiment tendance, quoi.
Oui, alors déjà en deux mots, l'idée de la vente en vrac, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de venir avec votre petit sachet, votre petit bocal en boutique et décider des quantités que vous achetez, par exemple du riz, des pâtes, des fruits secs, par exemple. Alors vous l'avez dit, on l'annonce.
On décide pas parce qu'à chaque fois, la molette, elle est... on en met toujours trop.
Bah oui.
Voilà. Bon, enfin, bon, continuez.
Oui. Vous m'accueillez très bien, en tout cas, je suis ravi. Donc, c'était annoncé comme une grande tendance. Et oui, c'est moins le cas aujourd'hui. D'après un sondage Opinionway pour Digifrance, après une hausse constante, il faut savoir que, par exemple, en 2019, les ventes en vrac ont augmenté de 41%. Eh bien, l'arrivée du Covid a mis un petit frein à cette mode. Pour des raisons sanitaires, évidemment. Les craintes sur l'hygiène ont beaucoup grandi pendant cette crise, sont restées. Mais cette crainte, elle s'appuie également sur des faits. En 2020, la DGCCRF a contrôlé près de 1800 points de vente et des manquements ont été relevés dans plus de 45% des cas.
Un sur deux.
Un sur deux quasiment sur le nettoyage des équipements, la contamination par des allergènes, des anomalies sur le pesage dont vous parliez, et la présence de nuisibles. Alors les nuisibles, on a parlé de mites alimentaires, mais aussi de rongeurs. Il n'y a pas plus de précision.
Vous voulez dire qu'il y a des rats dans mes campagnes?
Ah mon Dieu, quelle horreur.
Non,
des surmulots.
Alors déjà j'étais pas très vrac. Alors là, je le suis plus du tout. Vous nous donnez pas vraiment envie, hein, Paul.
Non, mais malgré ces manquements, on peut pas parler d'un échec non plus pour le vrac. On sait que.
Bon, voilà, après cette chronique, je peux vous dire que plus personne va acheter en vrac.
On sait qu'une majorité des Français ont déjà acheté en vrac. 65% des Français disent qu'ils l'ont déjà fait.
Oui.
Alors c'est principalement les jeunes, hein, à 82%.
J'ai acheté des baies de gauche.
C'est des moins de 24 ans. Je ne reviendrai plus, hein, c'est la dernière fois que vous me voyez. Contre 52% pour les plus âgés, les plus de 65 ans.
Ah bon.
Et en général, quand on va dans un magasin, on peut acheter en vrac, on dépense 88 euros par mois. Donc c'est pas.
C'est énorme.
Par mois.
Oui, mais les gens n'achètent pas qu'en vrac. Tu vas pas acheter ta viande en vrac. C'est-à-dire que tu vas t'as pas ton steak qui tombe. Donc, c'est-à-dire que t'achètes que.
T'achètes
tes pistaches, tes céréales, ton riz, quoi. Bah, 88 euros, excusez-moi, c'est énorme.
Alors, figurez-vous qu'il y a certains produits qui cartonnent absolument. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, des trois
Les muesli, non.
Les pistaches,
le riz,
les pâtes.
Oui, pâtes, riz, troisième, c'est le café. Ces trois-là sont le plus achetés en vrac. Bon, les Français, on peut acheter aussi autre chose que de la nourriture, des produits d'hygiène, des entretiens ménagers. Et à l'inverse, ce qui s'achète le moins, c'est la litière pour les animaux.
Et pourtant, c'est pratique.
Litière en vrac.
Oui, et moi, je trouve que le plus surprenant, ce qui se vend le moins, c'est les bonbons.
Bah oui, parce que c'est pas des bons. En fait, on voit que c'est des bonbons bio, ils font pas envie, en vrai. Non, mais excusez-moi, non, mais. On aime
oui, parce que les magasins
bio.
De bonbons, il y avait des trucs en vrac.
Oui, t'es pas chez Gloops, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en vrai, tu arrives dans un magasin bio, tu regardes des bonbons, t'as envie de mourir. Enfin, ça fait pas du tout envie. On dirait des bonbons de vieux, ou tu sais, les bonbons.
Alors, qu'est-ce que c'est
des bonbons médicaux?
Qu'est-ce que c'est qu'un bonbon de vieux?
ce sont des bonbons avec emballage, déjà, toujours. Et c'est, vous savez, les bonbons, ils sont des lutis.
Les Werther's originales.
Mais ça, j'aime beaucoup. Mais les Lucis, c'est des bonbons avec une croûte. Et à l'intérieur, il y a de la confiture. À mon avis, ça n'existe plus.
Mais quand il y a les gommes, les petits oursons en gomme, on voit que les gommes, elles ne sont pas très ça fait un peu raccordi.
Vous vous rendez compte, le bouillon de culture de ce genre de choses que vous mettez.
C'est un médecin qui parle.
Des amandes ou des bonbons avec le sucre, mais c'est un million. Ils se régalent. Les nuisibles se régalent.
Alors. La question que je dois poser à Paul, normalement, c'est: tenez, Paul, comment est-ce qu'on doit inciter les gens à acheter plus en vrac?
Il y a plusieurs choses. Déjà, ça va passer par la loi. La loi anti-gaspillage prévoit que d'ici 2030, les commerces de plus de 400 mètres carrés devront dédier 20% de leur surface au vrac.
Contrôle sanitaire. Ça va être contrôlé.
Contrôle sanitaire.
Bien sûr que ça va être contrôlé, comme ça l'est déjà aujourd'hui.
Nettoyage.
Et forcément, plus on vous en propose, plus vous avez la chance d'en acheter ou envie d'en acheter. Ensuite, en matière d'hygiène.
Ah, voilà.
C'est ce qui revient en premier chez les Français. C'est très important pour eux. 50% disent, si c'est pas mieux géré en termes d'hygiène, on n'ira pas. Et d'ailleurs, l'ANSES, l'Agence nationale de la santé publique, a recommandé d'exclure plusieurs types de produits. Les produits d'hygiène intime comme les tampons, les couches, les mouchoirs, les filtres à café, les serviettes de table ou le film alimentaire, par exemple.
Oui, et puis c'est bien qu'ils ne changent pas de contenant, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Que les
films alimentaires, les tampons, en vrac,
oui, ça me dégoûte. Paul, un dernier chiffre peut-être pour finir?
Les consommateurs aussi, ils veulent être plus aidés, notamment en termes de praticité. Parce que si vous arrivez dans un magasin en vrac, on ne vous propose que des petits sachets. L'idée, ça serait d'aider les gens à avoir des bocaux à disposition qu'ils peuvent ramener à chaque fois qu'ils font leurs courses, comme un caddie, comme un tote
bag. Ça, c'est pour les vodkas aujourd'hui, ça, c'est pour les parfums.
Ah bon,
en vrac? Oui, tout à fait.
Du parfum en vrac?
Vous remplissez votre
petite
bouteille.
La vodka en vrac?
Oui, et la vodka aussi.
Ah bon, d'accord. Oui, on me dit à l'oreillette, Mélanie Delaunay me dit effectivement chez Sephora.
Oui, on aurait dû
vendre de la vodka en vrac chez Sephora.
Non, pas de la vodka.
Je sais ce que je vais faire demain après-midi.
Ah ben, écoutez, formidable. Merci beaucoup, Paul, pour cette chronique qui nous a dégoûté du vrac. Jusqu'à la fin de notre existence. Dans un instant, nous parlerons du réveillon. Alors, le réveillon, on a tous envie qu'il arrive, mais malheureusement, cette année, il va peut-être rimer avec restriction à cause de l'inflation, la morosité, le budget serré. Est-ce que vous allez vous serrer la ceinture?
Allez acheter du vrac.
Non, certainement pas. Une fois dans en vrac. Mais donc dites-nous ce que vous en pensez.
De la dinde en vrac.
Et comment vous allez passer votre réveillon? On vous attend nombreux au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.